altitude. Anouk Mertz.
Pour l'escalade, effectivement, il y a plus d'une centaine de voies d'escalade sur l'ensemble du massif. Et ça va même plus loin, puisque le fameux site des Varapes, un mot varap et varapé, un mot et un verbe qui sont connus dans le monde entier, en fait, on pour origine le savait.
Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en plaine, au bord du lac, à 374 mètres d'altitude, à Morges, puisque nous sommes en direct et en public au Livre sur les quais. Notre invité est à la fois un auteur, on était obligé, avec grand plaisir, et un aventurier éclectique. Il a été notamment pilote d'El Delta, plongeur, skieur de Pontred, explorateur de terres inconnues, mais il est aussi l'explorateur d'un thème au cœur de nos sociétés, la peur. Gérard Guerrier, bonjour.
Bonjour.
La peur, c'est ce qui l'intéresse, mais ce n'est pas n'importe quelle peur, c'est la peur choisie. Celle acceptée et parfois recherchée des aventuriers, mais aussi celle de tous les jours. Car qui n'a pas un jour les chocottes ou froid dans le dos, simplement à l'idée de déclarer sa flamme à l'être aimé? C'est donc avec lui que nous allons explorer cette émotion. Dans cette émission, nous prendrons aussi un peu d'altitude, pas trop. Nous irons à Genevois oblige au bout du lac, au Salève, avec Virginie Bravant. Et notre chroniqueur du jour, eh bien, c'est vous, François Maudou. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler de vélo, d'environnement.
Voilà, de vélo, de montagne qui s'écroule et de notre rapport à l'environnement.
Si vous êtes dans les parages à Morges, venez nous rejoindre. Nous sommes dans la grande tente. Nous sommes ensemble sur les quais jusqu'à 18h.
Altitude.
Pour vous, la peur, par exemple, ça existe là-haut?
Celui qui n'a pas peur, je pense que il fera pas long, comme alpiniste et comme guide. Alors la peur, de temps à autre, il faut l'avoir. Comme ça nous remet un peu à notre juste place.
Mais vous l'avez vu?
Deux, trois fois, j'ai regardé en bas, je me suis dit, tonnerre, ici, il faudrait pas tomber. Alors c'est peut-être ça, la peur. Qu'est-ce que c'est exactement, la peur? J'en sais rien. Mais c'est peut-être ça.
Et dans ces moments-là, vous pensez aux gens de la vallée?
Non, pas directement aux gens de la vallée. On est tellement liés, tellement concentrés sur le problème, surtout quand il y a une difficulté. Alors là, c'est terrible. On est dedans, on est dans le coup. On vit, on est seul dans ce massif, dans ce bloc, et on vit là. Alors on s'agrippe, on étudie, on résout le problème, le passage. Et après, ça fait une de passer. Et puis de nouveau, il y a une petite relaxation, très fine d'ailleurs, on ne peut pas se relaxer beaucoup. Et puis tout repart de nouveau gentiment. Il y a des moments à tampon, si vous voulez.
Archives de 1975, lorsque les deux guides de montagne, Ziegenthaler et Willy, réussissent l'exploit d'arriver au sommet de la Dent Blanche en empruntant une voie certes très difficile, celle de l'arête des Quatre Ânes. Gérard Guerrier, que vous évoque cette archive, les propos de ces deux guides?
Que ces deux guides sont des sages, qu'ils ont peut-être lu mon bouquin, mais non, c'était en 1975.
Voilà, vous êtes francophone, vous êtes français, on l'a entendu. Alors, vous signez Éloge de la peur aux éditions Paulson, un livre dans lequel vous étudiez très finement, hein, dans le détail, cette émotion très complexe qu'est la peur. J'ai trouvé personnellement que c'est un doux mélange entre enquête, philosophie, psychologie, neurosciences, témoignages de grands aventuriers. On lit les propos d'Isabelle Autissier, de Reinhold Messner, de Pierre Mazeaud, de Loïc Perron, Gareth McNamara. Je vais arrêter parce que la liste est très longue. Géraldine Fasnacht, allez, un peu de cocorico. Et puis aussi vos propres récits, votre témoignage très personnel. Pourquoi avoir choisi cette forme, Gérard Guerrier?
Pour moi, c'était un passage obligé parce que, si vous voulez, pour faire un ouvrage sérieux qui ne se prend pas au sérieux, j'ai voulu évidemment interroger ces sportifs extrêmes, les spécialistes, et la peur est à la croisée de nombreuses spécialités. Mais savez-vous, si je passe, je vais dire, 2 heures avec Géraldine ou 4 heures avec Bertrand Piccard, je ne peux pas dire que je sois des intimes. Or, la peur est forcément intime. Et pour parler de l'intimité, eh bien, je parle de moi.
D'où vous est venue l'idée d'écrire ce livre, d'une expérience personnelle,
d'une peur
particulière?
On rentre dans l'intime. Il se trouve que pendant 20 ans, à peu près 20 ans, j'ai pratiqué les activités à risque, sans limite ou sans peu de limite. Pas sans avoir peur, j'avais peur, mais pour moi la peur n'était pas un problème. Je me rappelle d'accidents en deltaplane, où je sortais de l'hôpital après un trauma crânien, une luxation, etc. Et le lendemain, j'étais sous mon aile. Donc ça me posait peu de problèmes jusqu'à l'accident de mon fils qui est décédé en parapente. Et de cet accident et de ce traumatisme, parce que c'en est un, je suis ressorti peureux. Mmh. Je me suis découvert peureux, alors que ce n'était pas vraiment ma réputation. Et j'ai voulu comprendre tout ça à la fin, d'abord par curiosité intellectuelle, sans doute, mais aussi peut-être comme une thérapie.
Vous étiez un enfant peureux, Gérard Guerrier ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. Si vous voulez, quand on s'appelle guerrier...
Oui, j'allais vous dire. Dans le livre, vous dites petit guerrier. Allez, voilà. Petit guerrier, essaye de prendre ton courage à deux mains et saute en bas le mur.
Ouais, il faut être prêt au combat parce que les gamins ne vous font pas de cadeaux. Mm-hmm. Et on ne m'a pas fait de cadeaux. Et dans ma famille, on ne pleure pas. Et donc, non, je n'étais pas peureux.
Ça vous a aidé de vous appeler guerrier alors ? Ce petit côté aventureux, ça l'a exacerbé ?
Non, ça ne m'a pas aidé, ça m'a conduit là où je suis.
Et ensuite, dans les multiples activités que vous avez eues, vous avez souvent eu peur ?
Bien sûr, de la crainte. Alors si vous voulez, le spectre de la peur, il est immense. Ça va de la simple appréhension jusqu'à la terreur pure. Et oui, j'ai connu la terreur pure plus d'une fois, hélas, où j'ai cru voir ma dernière heure venir.
Racontez-nous.
Ah !
Moi, il y a un passage, en tout cas, qui m'a fait vibrer lorsque j'ai lu votre livre, le passage de la grande enveloppe.
Ouais, bah, je pensais à celle-là, justement, parce que c'est la dernière fois, et depuis, je me suis un peu calmé. À l'époque, je fais du télémarque, du ski en télémarque, depuis plus de 30 ans, maintenant. Et mon ambition, c'était de libérer les pentes, comme les alpinistes libèrent les falaises. Eh bien, moi, je libérais les pentes avec le talon libre. Et donc, j'avais une série de pentes raides. Alors, pas 50 degrés, mais un bon 45. Mm-hmm. Et donc, j'étais allé à la Grande Casse, en Vanoise. Sauf que, bon, tout se passe bien. J'étais avec un camarade en ski de rando classique. Tout se passe bien, sauf que la neige ne dégèle pas. Ça décaille pas du tout et ça reste de la glace. Et là, j'étais tellement dans mon cône, et pas du tout à regarder à 360 degrés, que plutôt de mettre mes crampons et de redescendre en désescalade, je continuais à...
Vous êtes dans les rails.
Je suis dedans, mais un peu trop dedans. Et en bas, 600 mètres plus bas, il y a une énorme crevasse qu'on appelle la boîte aux lettres, parce qu'elle est ouverte, et il suffit de tomber dedans et c'est terminé. Et donc, évidemment, je suis terrifié par cette boîte aux lettres. Elle fait 3 mètres de large, 40 mètres de long. Et donc, j'essaye de m'éloigner doucement, presque au ralenti. Hein, pas du tout en skiant comme ça, parce qu'on est déjà sur une pente de 43 degrés. Donc, je m'éloigne de la boîte aux lettres. Et en m'éloignant, la pente augmente, 45, 46. Et je suis toujours en télémarque. Hein. Et là, la raison me revient. Je me dis, c'est n'importe quoi. Donc, je m'arrête. Je prends mon piolet pour faire un ancrage et mettre mes crampons. Et le simple geste de prendre mon piolet à l'arrêt me projette dans le vide et je fais 600 mètres de chute. Et quand je dis chute, c'est vraiment une chute. Vous imaginez une pierre qui descend une pente à 45 degrés. Eh bien, elle glisse pas. Elle est dans l'air et elle fait des bonds. Eh bien, moi, je faisais pareil. Et là, j'ai réalisé que j'allais mourir. Le premier réflexe a été de dire « ce n'est pas moi, c'est un mauvais cauchemar, je vais me réveiller, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité ». Puis le cerveau fonctionne bien, le cerveau m'a dit « ben non, c'est bien toi ». Et alors je voyais les rochers approcher, je me disais « ça y est, je vais le percuter », puis non, je sautais au-dessus du rocher. Et puis la deuxième vague, ça a été un immense sentiment de culpabilité vis-à-vis de mes enfants et de ma femme. Et en me disant, mais je fais n'importe quoi et je vais mourir et c'est complètement idiot. Et puis en fait, j'ai sauté au-dessus de la boîte aux lettres. Je suis passé à 5 mètres au-dessus de la boîte aux lettres. Je suis allé m'écraser dans les boules d'avalanche. Et puis voilà, je suis encore là pour en parler.
Et vous êtes avec nous jusqu'à 18h pour évoquer avec douceur, mais aussi passion hein, de toutes ces aventures et de l'éloge de la peur.
Altitude,
danser, nous dansons souvent au bord du cratère, sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Petit bout de chair, danser au bord du cratère. Plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère.
Sur un volcan de la Maison Tellier qui vient réchauffer un tout petit peu l'ambiance ici sur les quais de Morges, parce qu'on avoue, on n'a pas très chaud. Mais par contre, nous sommes en charmante compagnie avec Gérard Guerrier pour évoquer son livre « Éloge de la peur ». Vous y référence à cette terrible aventure, hein, terrible épisode de la Grande Enveloppe. Vous disiez, à un moment donné, on a tellement peur qu'on est dans les rails. La raison, elle part. La peur, c'est l'émotion principale qui balaye toutes les autres.
Oui, alors la peur, c'est la plus puissante des émotions. La peur l'emporte tout. Exemple, vous pouvez être triste et avoir faim ou envie de dormir. Quand vous avez peur, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas envie de dormir, vous n'avez pas envie de faire l'amour, vous avez peur. La peur l'emporte sur tout. Sur la raison aussi. C'est bien le problème. C'est pour ça que j'écris ce livre.
Par contre, la peur est très fortement liée à l'aventure. Vous dites que la peur est la sœur siamoise de l'aventure. Expliquez-nous.
Oui, alors ça mérite quelques mots d'explication parce qu'aujourd'hui, le mot aventure est tellement galvaudé. Vous avez des émissions de télévisées qui proposent des héros tatoués qui mangent des cancres là, ils appellent ça l'aventure. Bien sûr que non, c'est pas l'aventure.
Alors parlons plutôt d'exposition au risque, c'est ça?
Voilà. Non, il y a un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch qui a très bien défini l'aventure. Il dit que l'aventure, c'est le jeu et le sérieux. Le jeu, c'est l'inconnu, le hasard, et le sérieux, c'est la possibilité de la mort. Donc il faut qu'il y ait un risque, sinon ça ne fonctionne pas.
Donc c'est ça qui pousse ces sportifs de l'extrême, ces aventuriers, à tenter des choses incroyables alors qu'ils savent très bien qu'ils jouent avec la limite et qu'au fond, ils prennent des risques qui peuvent les entraîner jusque sous terre.
Alors les motivations, c'est complexe, parce que chacun a son propre cocktail de motivation. Puis il y a des motivations qui vous tirent vers le haut et des motivations qui vous tirent vers le bas. Donc il faut faire attention. Il y a un psychologue autrichien qui dit que les sportifs extrêmes, il y en a la moitié, ce sont des psychopathes. Moi, au début, ça me faisait rigoler. Et puis, honnêtement, en analysant mes 10 années de deltaplane, Je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai passé l'âge. Je pense que j'étais un véritable psychopathe. C'est-à-dire, j'étais complètement indifférent aux sentiments de mon entourage vis-à-vis du risque que je prenais.
François Modou.
Ouais, pour avoir peur, pour se lancer dans des défis extrêmes comme ça, jouer avec ses peurs, il faut être égoïste, il faut être un peu fou, non ?
Bah oui, c'est ça. Il faut être un peu psychopathe, mais c'est pas la seule raison. Par exemple, Alex Honnold, le fameux grimpeur californien qui fait 900 mètres dans le 7 sans harnais, sans rien, sans corde, sans parachute. Il a une amygdale qui fonctionne au ralenti. Il a une fonction de la peur qui fonctionne pas très bien. Mais vous savez, vous prenez des risques tout bêtement quand vos motivations sont supérieures à vos peurs. Donc, quel que soit votre niveau de peur, si votre niveau de motivation est supérieur, vous y allez. Et il y a des tas de motivations. Moi, personnellement, quand je faisais du deltaplane, c'était la liberté. Évoluer dans les trois dimensions. Quand vous êtes dans une pompe à 10 mètres secondes, que le sol s'élève, et que vous allez trois fois la vitesse d'un ascenseur, que vous ressentez l'odeur des pins, etc. Mais c'est incroyable, c'est un sentiment incroyable, que vous faites attaquer par des aigles. Enfin, c'est fou, quoi. Ça n'existe que là. Pour moi, c'est des motivations extraordinaires. Mais il y en a des tas d'autres. Il y en a la découverte, on en a parlé. Puis après, il y a des motivations un peu plus sombres. Alain Robert, le grimpeur qui grimpe les immeubles à main nue, etc., en prenant des risques maximum, dit « À chaque fois que je grimpe un immeuble, j'ai l'impression de me faire une place entre la vie et la mort. » Et puis, il y a d'autres motivations qui sont peut-être moins nobles aussi, c'est l'ego. « Je veux montrer. » Et ça, cet ego, il a tué la plupart des wingsuiters, des baseux qui se lancent des falaises et qui essayent de raser avec leurs ailes de Batman le sommet des mélèzes. Et moi, je dis souvent que l'un des principaux meurtriers des wingsuiters, il s'appelle GoPro et YouTube.
La technologie a changé les choses.
Ah oui, ouais. Alors, peut-être, bon voilà, peut-être je suis en train de passer dans le rang des vieux cons.
Allez-y, on est plusieurs.
Mais je pense qu'effectivement, la technologie a éliminé une grande dimension de l'aventure, qui est notamment le jeu et le sérieux. Quand vous partez, je ne citerai pas de nom, mais vous partez faire une aventure et que vous êtes suivi éventuellement...
C'est le spectacle qui pose problème.
Voilà, là on est dans le spectacle, on est dans la performance, on n'est plus dans l'aventure. Et moi je crois que pour revivre l'aventure, il faut se dépouiller, il faut revenir aux origines. Christian Clot, l'aventurier, fait des choses intéressantes quand il part traverser un désert sans GPS, sans téléphone satellite, etc. Il y a un engagement, hein, on met sa vie en gage, on y va.
J'ai envie de revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un mélange, bien sûr, hein, de motivation qui pousse les gens à faire certaines choses. Peut-être aussi un petit peu de folie. Vous citez Reinhold Messner dans votre livre, le premier homme au monde à avoir gravi l'Everest sans oxygène, en 78. Nous le recevions dans Altitude, hein, on a eu ce plaisir au mois d'août. Et lui, il dit, eh bien, pour compter dans l'élite de l'himalayisme, il faut être associable, égocentrique, et fou.
Ouais, y a un autre psychiatre qui m'a dit que pour faire des choses incroyables, il faut être un peu déséquilibré, parce que c'est pas ça l'équilibre. Effectivement, il y a une faille, y compris chez Reinhold Messner. Reinhold Messner, s'il n'avait pas perdu son frère au Nanga Parbat,
quelques années avant, 1970,
avec toute cette tragédie et puis ce sentiment de culpabilité et les doigts pointés des alpinistes allemands, je pense qu'il aurait jamais fait la carrière qu'il a faite. Mmh. Il serait devenu un alpiniste sportif, alors qu'il est devenu un homme extraordinaire.
Alors, vous en avez rencontré beaucoup, hein, des alpinistes. Qu'ont-ils en commun ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort chez chacun dans leur rapport à la peur ? Ou bien est-ce que la peur est tellement individuelle qu'il est difficile de mettre une étiquette, au fond ?
Ben, c'était tout mon travail, c'était de trouver des points communs. Alors, on a vu les motivations, chacun a son cocktail, donc ça, c'est un peu compliqué. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était les différentes phases de la peur, entre l'anxiété et la peur pendant. Et ce qui est commun à tous les alpinistes, c'est que quand ils sont dans l'action, il n'y a plus de place pour la peur. Et ça, c'est extraordinaire. Et on se rapproche un peu, d'une certaine façon, de la pleine conscience qu'on peut retrouver en méditation. Mais à condition d'être formé, entraîné, etc. Parce que sinon, on passe dans le volet panique, et là, c'est une autre histoire.
Mais est-ce que c'est que pour les alpinistes ou parce que le sous-titre hein, de votre livre, c'est à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien. Mmh. Parce qu'au fond, on est tous confrontés à la peur, à cet inconnu.
Ouais.
Et au fond, c'est bien le processus en amont.
Bien sûr.
Qui devient quelque chose d'anxiogène. Mais une fois qu'on est en train de prendre la parole ou qu'on est en train de déclarer sa flamme, c'est ce que j'utilisais comme image en début d'émission, au fond, la peur s'estompe ou s'efface.
On est dans l'action. Évidemment, c'est commun à tous les humains. Hein, moi, j'ai choisi les sportifs extrêmes, d'abord parce que c'est quelque chose qui est proche de mon environnement. Et puis ensuite, je les considère comme des pilotes d'essai des émotions. Donc, ils poussent à fond les manettes. Et en poussant à fond les manettes des émotions, ils peuvent nous apprendre des choses. Mais l'anxiété d'un alpiniste est tout à fait similaire à l'anxiété d'un prof qui va faire son premier cours dans une banlieue difficile.
Mmh. François.
Il est souvent dit que la peur, elle paralyse. Mais au fond, quand on lit votre récit, on a souvent l'impression qu'elle est plutôt bonne conseillère, qu'on a besoin de cette peur, au fond, pour avancer.
Bah, d'abord, il faut reconnaître que si il n'y avait pas la peur, on n'existerait plus, on ne serait plus sur Terre. Hein, parce qu'on n'est pas les plus costauds, on n'est pas les plus féroces, on n'est pas les plus rapides. Donc on aurait été dévorés par je sais pas qui. Mais en tout cas, on n'existerait plus sur Terre. Donc la peur est utile, mais par contre, le problème de la peur, c'est que la peur s'habille d'oripeaux, de parasites. La peur est parasitée par des tas de choses, notamment par tous les fantasmes, les mythes, les souvenirs, les projections dans le futur. Et donc là, il y a un véritable travail pour prendre la peur pour ce qu'elle est.
Donc il faut la dompter ?
Non, je déteste ce terme dompter, parce que ça veut dire qu'on est plus fort que sa peur. Mais c'est idiot. La peur, elle nous appartient. Pourquoi vous voulez vous dompter vous-même ? C'est la vôtre, la peur. Quand vous dites « je suis triste », je ne dis pas « je vais dompter ma tristesse ».
On va faire avec.
Vous faites avec et vous essayez de comprendre pourquoi vous êtes triste. Eh bien, avec la peur, faites la même chose.
C'est en ce sens-là qu'elle est la pire ennemie et la meilleure amie, la peur ?
Tout à fait. Oui, parce que c'est la meilleure des conseillères. Parce que je peux vous dire, quand vous avez peur, c'est qu'il y a un signal. Si vous ignorez ce signal, surtout si vous êtes alpiniste, grimpeur ou skieur de pentraide, que sais-je encore, bah là, il y a un problème. Vous allez au clash à un moment.
C'est ce que dit Edurne Passaban, hein. Ouais. L'alpiniste basque, première femme à gravir les 14 8000 avec oxygène. Je vous cite, je la cite. « Si je suis encore en vie, ce n'est pas parce que je suis une meilleure alpiniste que mes défunts amis, mais bien parce que je suis une alpiniste peureuse. »
Eh oui. Et ça, l'avantage de Edurne, c'est que c'est une femme, elle ose l'avouer. Mais combien d'alpinistes hommes n'osent pas l'avouer ?
Mais ça change, non ? Il y a quand même une féminisation des choses. Et puis aussi une valorisation des émotions ouais. qu'on jugeait un peu trop négatives.
Oui, je pense que mon livre, il y a autant de Lionel Terré. Lionel Terré disait « En montagne, il faut engager la viande ». je pense que mon livre n'aurait pas été bien reçu. Aujourd'hui, ça change.
C'est pour ça qu'il faut en faire l'éloge, que vous avez choisi ce titre.
Oui, alors c'est un titre évidemment un peu provocateur, parce que pourquoi faire l'éloge de quelque chose qui est honteux ? Mais oui, je pense qu'il faut quand même en faire l'éloge pour essayer. Mais par contre, ne pas tout prendre. Hein, la peur, c'est encore une fois, c'est la meilleure, mais ça peut être la pire des conseillères.
17h27, on va rester au bord du lac, mais aller un tout petit peu plus loin, se rapprocher de Genève, puisque nous allons nous rendre auprès de la montagne des Genevois, c'est comme ça qu'on en parle. Alors, à tort, il faut dire qu'elle a servi au fil du temps de terrain de jeu à bon nombre d'entre eux. De Saussure s'y entraîna avant de s'attaquer au Mont Blanc. D'autres alpinistes y ont fait leurs armes avant de se révéler en Himalaya. Et le mot Varap doit même aux Salèves son origine. C'est ici que ce mot a été en effet prononcé la première fois, en guise de moquerie, après que de jeunes alpinistes aient échoué à vaincre une voie du secteur des Varap. Alors des anecdotes comme celle-ci, Dominique Ernst en connaît des centaines et continue pourtant d'en découvrir de nouvelles. On le considère comme l'historien du balcon des Genevois, lui se dit plutôt conteur. Eh bien c'est Virginie Bravant qui avec lui va gravir le Salève. Ils sont à un endroit emblématique, celui de la grotte d'Orgebet.
Alors nous sommes partis du hameau du coin qui est sur les hauteurs de Collonges-sous-Salève et nous sommes sur vraiment le sentier emblématique du Salève qui est le sentier d'Orgebet qui a été découvert notamment par De Saussure au XVIIIe siècle. et qui traverse une grotte magnifique et qui arrive au niveau de la Coratrie, un des plus beaux points de vue du massif.
Alors c'est une balade qui commence tout de suite d'une manière assez soutenue. Au départ, on traverse des vergers, on se dit que ça va être tranquille, mais en fait, ça n'est qu'une illusion.
Oui, c'est un des chemins les plus raides, quoi. Et il a la particularité d'être effectivement raide dès le départ, donc on sait tout de suite ce qui nous attend, et il est raide quasiment sur tout le parcours. Il n'y a qu'après la grotte d'Orgebet où le chemin se détend un petit peu en guise.
On a des oiseaux qui nous accompagnent tout le long.
Oui, à cette heure-là, le matin assez tôt, c'est magnifique. Surtout qu'il y a peu de monde, donc on peut vraiment en profiter.
Voilà, le panorama s'ouvre. On voit Genève au loin. Et tout le jeune bois.
Bon, le ciel est un petit peu bouché, mais le fait de monter au Salève, comme sur d'autres massifs, le Jura en face ou le Vuache à gauche, nous montre à quel point on a la chance d'habiter dans une région exceptionnelle, quoi, et qui, malgré une urbanisation assez intense, conserve quand même beaucoup d'espaces naturels remarquables.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que beaucoup de Genevois apprécient de monter au Salève, car surtout l'hiver, quand la ville est recouverte d'un méchant stratus, au Salève, souvent, on est au-dessus.
Absolument, et on peut même dire que c'est sans doute une des raisons qui a poussé à la construction du chemin de fer du Salève à la fin du 19e siècle. C'est que tout d'un coup, il permettait à tout un chacun, pour un prix relativement modeste, en une heure de monter, de se retrouver effectivement sous un soleil magnifique, alors que Genève était noyée dans une purée de pois terrible.
Premier tram de campagne entre Genève et Verviers rejoignait la crémaillère qui montait au Salève. Il fallait 1h13 pour faire Genève-Trésarbre et ça coûtait en francs. Dans les années 30, il s'arrête, remplacé par un téléphérique. Mais il en reste encore quelques traces tout de même.
Il est arrivé là, au Pellevue, où il y avait une gare, qu'on ne voit pas parce qu'il y a des arbres. Et après, il montait tout le long là-haut, jusqu'au Trésarbre.
C'est aussi intéressant quand on est ici avec finalement le Jura en face et le Vuache à gauche et le Salève sous nos pieds, c'est qu'on voit que après les guerres napoléoniennes, quand Pictet de Rochemont a négocié avec les grandes Europes les nouvelles frontières de Genève, lui, il avait obtenu qu'on aurait pu mettre ses frontières sur les crêtes des montagnes qui nous entourent. Et finalement, les élites genevoises, un peu frileuses, ont eu peur d'un apport massif de catholiques et ont refusé ça. Et c'est dommage parce que d'ici, on se rend compte qu'on serait dans une belle unité qui a vraiment du sens.
Et le Salève serait donc vraiment au Genevois.
Voilà, exactement. En tout cas, à moitié, parce qu'il aurait été coupé au niveau des crêtes. Mais on voit que finalement, Genève et son arrière-pays, c'est vraiment une chose assez logique, quoi, fermée par des montagnes, et ça aurait du sens.
Comment se fait-il que vous connaissiez si bien cette montagne? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Quelque chose d'un peu sacré, d'un peu mystique?
Alors, elle est particulière par sa situation, puisque c'est une vraie montagne. D'ailleurs, c'est une des montagnes les plus accidentogènes de Haute-Savoie, derrière le massif du Mont-Blanc. Il faut savoir que c'est un massif où il y a chaque année un à deux morts des gens qui sont pas très prudents et qui vont dévisser dans des chemins escarpés. Et en fait, on a une vraie montagne, mais qui est à deux pas de Genève. Donc, ça a été le terrain de jeu des scientifiques genevois pendant des siècles qui sont venus tester un petit peu tout ce qui s'inventait. Les botanistes, les archéologues, enfin toutes les disciplines scientifiques sont venues sur le Salève pour expérimenter plein de choses. Les gens venaient se promener. Et à côté de ça, c'est quelque chose que je ressens bien, mais je ne suis pas le premier à le dire. On a l'impression qu'il se dégage quelque chose de ce massif. Selon les endroits où on se promène, on est un petit peu baigné dans des ondes qui sont plutôt positives et qui font du bien, quoi. C'est un endroit assez particulier.
Alors d'ailleurs, Ella Maillard racontait dans ses mots cette belle énergie qui se dégageait de ce massif-là.
Je prétends que le sommet du Salève est un endroit unique au monde. Je crois que c'est une question d'altitude, de pureté de l'air, de courant ascendant. Et je crois que les pèlerinages d'autrefois, et là où nos ancêtres ont mis des croix et des pèlerinages, c'était des endroits où ils ont senti que c'était une terre sacrée. Est-ce que nos scientifiques d'aujourd'hui pourront analyser les vibrations d'un endroit sacré, je n'en sais rien, mais il y a des êtres humains qui s'y connaissent, il y a des livres qui sont écrits sur les endroits sacrés. Et certainement, le Salève en fait partie, à mon avis.
Alors là, on vient de faire quelques jolis lacets dans la forêt et maintenant, on se retrouve vraiment dans le vif du sujet, si on peut appeler ça comme ça. On est face à la roche cette fois-ci.
Voilà, on entre dans le dur en quelque sorte. Et là, on est vraiment dans cette partie du Salève qui, finalement, a servi d'apprentissage à de nombreux alpinistes de Genève qui ont fait leur première gamme ici avant d'aller après s'aimer jusque dans l'Himalaya.
Qu'est-ce qu'elle offre, justement, cette montagne à des alpinistes en herbe ?
Je pense qu'elle offre quand même des conditions assez difficiles, des terrains très variés qui pourront après leur servir dans de nombreux domaines parce que le Salève est certes une petite montagne, mais une montagne exigeante.
Donc cette falaise qui plonge sur Genève, elle est parsemée de multiples voies d'escalade.
Oui, ben voilà, c'est toujours finalement cette situation d'une montagne à deux pas de la ville qui a fait que les sportifs en tout genre sont venus s'exercer ici. Et pour l'escalade, effectivement, il y a plus d'une centaine de voies d'escalade sur l'ensemble du massif. Et ça va même plus loin, puisque le fameux site des Varappes, un mot varap et varapé, un mot et un verbe qui sont connus dans le monde entier, en fait, ont pour origine le Salève. C'est une histoire assez amusante, alors que de nombreuses voies avaient été explorées, mises en place. Dans le secteur des Varappes, qui est un lieu dit au-dessus de Collonges-sous-Salève, il y a une voie que les sportifs n'arrivaient pas à monter. Et plus ils essayaient, moins ils y arrivaient. Et du coup, au bout de quelques mois, leurs collègues, pour se moquer d'eux, les ont surnommés les Varapeux, parce qu'ils étaient vraiment incapables de tracer une voie sur cette paroi assez abrupte. Par contre, on ne sait pas comment ce terme de Varapeux est passé dans le vocabulaire pour devenir, faire de la Varappe, faire de l'escalade. Quoi. Un mot qu'ils trouvent pour origine le Salève, ce qui est assez étonnant.
Il y a pas mal d'alpinistes genevois qui se sont entraînés ici, qui se sont peut-être même révélés sur ce Salève. Parmi eux, un certain Tricouni. Racontez-moi un peu qui était ce personnage.
Tricouni, Félix Génécan de son vrai nom, était un bijoutier. Et à côté de ça, c'était un monsieur très sportif qui a gagné des médailles de saut à ski dans différentes disciplines. Et au départ, c'est un passionné de montagne. Et d'ailleurs, quand il y avait des gens qui se perdaient au Salève, souvent les familles faisaient appel à lui pour entamer des recherches, essayer de retrouver les personnes. À cette époque, malheureusement, quand il retrouvait la personne, c'était souvent un peu trop tard. Et du coup, ce passionné de montagne a développé plein de choses. Et il a créé notamment les fameux tricounis, qui sont des clous en fait, qu'on mettait sous les chaussures et qui permettaient d'avoir une meilleure adhérence sur les parois. C'est également lui qui a inventé le concept de la chaussure de ski telle qu'on le connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'au fil des décennies, il y a comme ça beaucoup de gens, les Lambert et d'autres, qui ont fait leur gamme au Salève avant d'aller grimper sur l'Himalaya ou dans les grands massifs mondiaux. Et ces précurseurs ont d'autant plus de mérite qu'ils ont fait ça avec des moyens qui étaient absolument limités. Quand on voit la façon dont les gens grimpaient les parois il y a 100 ans, c'est juste invraisemblable. Ils risquaient leur vie à tout moment et ça ne les empêchait pas d'être pétris d'enthousiasme et d'audace et de réussir à ouvrir des voies qui étaient complètement insensées. Alors ici, c'est la grotte d'Orgebet. Horace Bénédicte de Saussure, grand savant genevois passionné de montagne, c'est lui qui a initié la conquête du Mont Blanc, se passionnait pour le Salève, c'est ici qu'il a fait ses gammes. Mais en fait, le 4 mars 1779, il demande à un paysan de Collonges qui s'appelait François Orgebet de l'emmener un petit peu pour découvrir les particularités qu'il pouvait y avoir dans ce secteur du Salève. Et Orgebet lui a fait découvrir cette grotte qui est assez étonnante, qui traverse la paroi et qui ressort en dessus. Et du coup, de Saussure, très impressionné par cette grotte, a décidé de lui donner le nom de ce paysan de Collonges.
Avant de pénétrer dans cette grotte, on voit les initiales du club alpin suisse. Pourquoi avoir mis ces initiales ici, sur cette face-là ?
Alors parce que le club alpin suisse, et plutôt la section genevoise du club alpin suisse, c'est vraiment eux qui ont tracé un peu tous les itinéraires balisés du Salève. Et ils ont notamment fait ça à cause des nombreux accidents mortels qu'il y avait, où chaque année il y avait 3, 4, 5, 6 personnes qui se tuaient au Salève. Donc il a été décidé de créer des itinéraires balisés qui permettraient aux gens de circuler de façon plus sécurisée. Et donc en 1905, grâce à une souscription, les gens de la section genevoise du club alpin suisse ont créé donc ce sentier d'Orgebet. Et là on est vraiment sur un site emblématique du massif. Toute personne qui aime le Salève passe forcément par là à un moment ou à un autre.
Alors on va pénétrer dans cette grotte. Est-ce que c'est dangereux ?
Non, c'est pas dangereux. Elle était un petit peu abîmée et le syndicat mixte du Salève a fait des gros travaux grâce à une souscription également. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant sur ce sentier, c'est qu'on se rend compte que toute son histoire est liée à des particuliers qui ont donné de l'argent et qui ont permis de faire ces réalisations. Et donc il a été entièrement sécurisé il y a quelques années. Maintenant, il est assez spectaculaire, mais il ne présente pas de danger particulier. Nous sommes sur le site de la Coraterie, encore un endroit emblématique du massif. Et c'est vrai que c'est dans ce secteur où se situe une bonne partie des 100 et quelques voies qui ont été tracées par les grimpeurs sur les falaises du massif. Donc ici, on est vraiment dans un endroit qui est assez vertigineux et qui résume aussi assez bien ce paradoxe du Salève, où on a l'impression que comme on est à côté de Genève, c'est une montagne tranquille. Alors que quand on est ici, on se rend compte que même si le chemin est relativement large, la vue est impressionnante et les gens sujets au vertige peuvent vite être pris de panique à cet endroit.
Et là, alors on l'a vu parce qu'on est en montagne et le temps peut changer très vite en montagne. À peine sorti de la forêt, le brouillard est arrivé, le vent aussi. Là, on peut vite perdre son chemin.
C'est ce qui se passe. La plupart des interventions des secours, des gendarmes de Chamonix et des secouristes du Salève, c'est un peu lié à ces changements de temps où les gens sont partis assez tranquilles et sans équipement particulier et tout d'un coup se retrouvent dans le brouillard au milieu de nulle part. Et heureusement, grâce au portable, ils arrivent à prévenir les secours et on arrive à les retrouver. Ça montre encore une fois que le Salève est tout sauf une gentille montagne à deux pas de Genève.
Virginie Bravant au Salève avec Dominique Ernst, journaliste, auteur de 3 ouvrages sur cette montagne. 2 autres sont en projet. Le plus récent s'intitule Le Salève, des histoires et des hommes, publié aux éditions Slatkin. Gérard Guerrier, vous voulez grimper ce Salève ?
Non, j'y ai volé par contre quand j'étais plus jeune, puisqu'on décollait du Salève et on allait atterrir en France.
Ah comme ça, illégalement.
Ouais, comme ça. Oh, c'était pas très compliqué.
Ah le coquin. Et le nom Varap ? Vous saviez qu'il tirait son origine de cette montagne ?
Bah non, je suis venu à Morge pour apprendre tout ça et j'en suis ravi.
François Modou, pendant le reportage de Virginie Bravant, vous m'avez soufflé que vous aviez une anecdote sur Raymond Lambert. Allez-y.
Oui, moi j'ai pas grimpé au Salève, mais par contre j'ai rencontré le fils de Raymond Lambert, Yves, et il m'a raconté un petit peu l'histoire de son père. Et c'est vrai que Raymond Lambert, avant de devenir presque le premier homme à gravir l'Everest au début des années 50. C'était un enfant de Genève et à l'âge de 8-10 ans, il chevauchait son vélo, il partait en direction du Salève, il allait grimper au Salève, tout seul d'abord, puis avec un ou deux copains. Et longtemps, il a dit à ses parents qu'il allait à la piscine, ses parents le croyaient, et quand ils ont découvert la vérité, ils ont été assez sympas parce qu'au fond, ils ont compris qu'il avait un appel tellement fort de la montagne qu'ils l'ont encouragé à continuer à le faire et c'est devenu un des plus grands alpinistes des années 50.
Heureusement, en effet, hein, si ses parents avaient su, sans doute qu'ils auraient eu trop peur. Vous parlez, Gérard Guerrier, de la peur des proches, qui est une peur différente de la peur que ressent le protagoniste.
Oui, c'est probablement la peur la plus difficile à maîtriser, parce que on n'a pas forcément la possibilité de réagir. Hein. Et deuxièmement, il y a une place énorme laissée à l'imagination. Tout est possible. Moi, j'en parle, hélas, j'ai en connaissance de cause. J'ai un fils. J'entendais le reporter qui parlait des gendarmes de Chamonix. J'ai un fils qui est effectivement secouriste à Chamonix. Et c'est difficile parce que c'est difficile pour nous, pour sa maman et lui, parce qu'on peut imaginer le pire. Mais il faut se raisonner, il faut lui faire confiance. Mais c'est un long travail.
Il y a un passage très, très touchant à ce sujet dans votre livre. Vous le suivez, pour ainsi dire, au radar, parce qu'il doit rentrer en avion et il est venu au chevet de son frère défunt. Donc on est dans un imbroglio d'émotions très dur. C'est... Et vous cachez à votre épouse tout ce que vous savez.
Bien sûr.
Vous dissimulez vos peurs.
Ben oui, parce que bon, je la connais, elle est déjà assez anxieuse, et si en plus je lui rajoutais une couche, je pense qu'elle aurait pas tenu. C'était des circonstances terribles, puisque notre fils aîné était en réanimation à l'hôpital, son frère venait le visiter depuis la Bretagne en avion, et il repartait le soir, et j'étais tellement traumatisé que je suivais sur l'ordinateur Flight Radar le parcours de son avion, et à un moment, son avion a disparu des écrans. Et là, c'est ce que je disais, il n'y a pas de limite à l'imagination et j'ai vu l'avion crasher dans le golfe de Morbihan. Et ça a été horrible, horrible. Enfin, je dis, ça y est, je vais perdre mes 2 enfants. Et puis voilà, c'était juste un bug technique et l'avion est arrivé avec 10 minutes de retard. Mais voilà, pour vous dire que c'est vraiment la peur la plus pénible. Et les parents des alpinistes sont les plus à plaindre.
Même Reinhold Messner dit avoir peur pour son fils Simon.
Ouais, Reinhold craint pour son fils Simon, qui fait des choses beaucoup plus raisonnables. Et puis, bon, j'en ai discuté avec Bertrand Piccard, qui lui a des filles, mais qui font de la chute libre. Et il m'a dit, j'aime pas trop ça, mais comment empêcher ces choses-là, puisque moi, je les ai faites.
Oui, difficile hein, de ne pas servir de figure d'exemple. Dans le livre, il n'y a pas de glorification hein, de tous ces aventuriers qui ont des besoins ou non d'adrénaline.
Non, pourquoi les glorifier ? Vous savez, le courage, c'est Aristote, je crois, qui disait ça. Il n'y a de courage que s'il y a conscience, et donc conscience de sa peur. Et pour moi, un homme, c'est ce que je dis à un moment, je dis... Un type qui n'a pas d'amygdale, qui a une amygdale qui fonctionne au ralenti ou qui fonctionne à l'ego et qui passe un passage très difficile en alpinisme.
Là, vous faites référence à Alex Honnold, c'est ça ?
Non, parce non, que ego, il a pas un énorme ego, Alex, mais enfin, il a une amygdale qui tourne au ralenti. Mais voilà, il fait un passage très difficile. Et puis à côté, vous prenez quelqu'un, moi par exemple, un peureux, qui va passer un passage moyennement difficile. Je trouve ça beaucoup plus admirable.
Comme Vivian Bruchet, qui lui aussi choisit des itinéraires peut-être moins prestigieux, moins risqués, mais où il va découvrir quand même des nouvelles voies.
Vivian est intéressant.
Skieur de pente.
Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs extrêmes qui sont des anxieux. Vivian est l'un d'eux. Vivian me dit, moi, quand je fais une course en alpinisme, en ski alpinisme, je suis sans cesse en éveil, je crains la crevasse, la chute de sérac, la chute de pierre, etc. Et puis par contre, quand je me lance dans ma pente à 50 degrés au-dessus de la barre rocheuse où aucune faute de carré n'est permis, il n'y a plus de place pour la peur. Mm-hmm. Et ça, c'est admirable.
Certains sont anxieux, et puis on apprend aussi dans votre livre, il y a aussi une autre image qui est un peu cassée. On les prend souvent, ces sportifs de l'extrême ou ces aventuriers, pour des impulsifs, des déjantés. Non, c'est l'hyper-préparation qui joue un rôle.
Alors ça mériterait une analyse statistique et scientifique, mais je vais vous donner mon intuition. Sur les 40 et quelques personnes que j'ai interrogées, la plupart ont une formation scientifique. Isabelle Autissier est ingénieure agronome. Jean-François Mercier, qui est un alpiniste qui fait du dry tooling, à la base, c'est un statisticien, etc., etc. Ce sont des rationnels qui, effectivement, prennent toutes les mesures possibles pour continuer à pratiquer leur sport ou leur activité.
Donc, c'est la préparation qui vient lutter un peu contre les peurs.
Ou c'est plutôt la peur qui encourage à bien se préparer.
Vous vous situez où, vous, Gérard Guéry ? Parce que vous êtes aussi un scientifique, vous êtes ingénieur de formation. Vous êtes très éclectique dans votre manière d'appréhender l'aventure. Vous êtes où entre toutes ces personnes qu'on évoque ici ?
Moi, je suis un peu partout, ça dépend à quel âge. Un peu psychopathe. un peu drogué, non pas à l'adrénaline, mais à la dopamine, quand j'étais jeune. Après, de plus en plus réfléchi. Mmh. Et maintenant, j'espère un peu sage, mais je continue à essayer de repousser mes limites.
Le décès de votre fils, c'est un tournant dans votre rapport à la peur, dans votre rapport à l'aventure, dans votre rapport à la liberté, parce que vous liez liberté et peur chez vous.
Oui, c'est forcément un tournant. C'est peut-être la fin de ma psychopathie. Où je suis un peu plus réceptif à l'environnement et notamment aux craintes de mon épouse. Mais c'est compliqué parce que si j'écoutais mon épouse, je ne ferais plus rien. Je resterais à la maison devant la télé et il n'en est pas question.
Une fois, elle vous faisait des grands signes lors d'un vol en L-Delta pour vous dire non, Gérard, cette fois, tu n'y vas pas. Et il a fallu, il était moins une.
Ouais, ça c'est ma période psychopathe.
Racontez-nous brièvement.
Une tempête de neige, on est le 25 décembre. Ça fait 2 mois ou pour cause de météo ou 1 mois et demi que je n'ai pas volé, c'est pas plus possible. Donc je mets l'aile sur le toit de la voiture, je monte en haut de la falaise, il y a 1 mètre de neige, je fais ma trace pour aller jusqu'au tremplin et il y a une tempête de neige qui approche et je me dis génial, je vais pouvoir voler en dynamique, ça va être super. Je m'accroche sous mon aile. Mon épouse est quasiment en pleurs. Elle me dit, je t'en prie, arrête. Tu vois bien que la tempête de neige arrive. Et moi, je dis, mais non, ça va être bon. Et au moment où je relève l'aile, il y a une rafale qui m'impose de baisser l'aile. Je lève l'aile et là, effectivement, la neige est sur moi et on n'y voit plus à 2 mètres. Et là, effectivement, je me suis décroché.
sage décision. Eh bien, de l'aile Delta, nous allons partir à vélo après Bruce Springsteen. Born to Run ici au Livre sur les quais à Morges, 17h51. François Meudou, ce soir, bien, vous ne consacrez pas votre chronique à un livre, mais vous allez nous livrer un témoignage. Il est question de montagnes qui s'écroulent et de réchauffement climatique. Bon, c'est la thématique du jour, mais encore une histoire à nous faire peur.
Non, non, surtout pas, surtout non. Pas. Je voudrais plutôt tirer une leçon positive de cet été marqué par de grandes chaleurs. Sur notre rapport à la montagne et à la nature. D'abord, permettez-moi un petit flashback. Lors de la canicule de 2003, j'avais assisté de près à un écroulement spectaculaire de rochers au pied du Vélan en Valais. De ma course pour me mettre à l'abri, j'avais chuté et je m'étais foulé une cheville. Un hélicoptère avait dû me ramener en plaine, j'étais pas très fier. Rien de semblable cet été, pas d'accident, pas de frayeur, juste un étrange malaise. Alors que je traversais la Suisse à vélo, j'ai senti à quel point j'avais longtemps minimisé le réchauffement climatique, je veux dire l'enjeu pour mon propre mode de vie.
Mmh. Qu'est-ce que vous avez vécu de si marquant ? Y a-t-il eu un déclic particulier ?
Je parlerai d'un télescopage d'images. C'était le mois de juillet, Greta Thunberg, l'égérie nordique de l'urgence climatique, arrivée à Lausanne. Les commentaires allaient bon train, idole pour les uns, bête noire pour les autres. Je m'agaçais de cette personnalisation outrancière qui détourne l'attention des enjeux qui nous concernent tous. Que fait-on ? Comment agir collectivement, individuellement ? Et puis, survient à ce moment-là un drame au Cervin. Le 24 juillet, un pilier rocheux sur la voie normale conduisant au sommet s'écroule. Un guide et son client sont au mauvais endroit, au mauvais moment. La fatalité est un grand retentissement parce que c'est le Cervin, l'icône de nos Alpes. Or, la tragédie porte la signature des températures durablement élevées les semaines précédentes. Jamais, depuis les premières mesures météo en Suisse, le mois de juillet n'avait été aussi brûlant. Et à ce moment précis, moi, je pédale entre Lausanne et Langadine sur les routes des plus hauts cols alpins suisses. Et chaque jour, je suis frappé par ce que je vois. La Suisse alpine comme un chantier à ciel ouvert. Dans toutes ces vallées retirées du canton de Berne, du Haut-Valais, d'Oury, des Grisons, je croise des cantonniers, des ouvriers au chevet de routes et de voies ferrées malmenées. Une armée de fourmis mobilisées pour réparer le bitume, déblayer les gravats d'une rivière sortie de son lit, consolider des infrastructures fragilisées, protéger la route contre l'écroulement de rochers menaçants.
François, vous avez parlé avec ces personnes, avec les habitants de ces vallées. Que disent-ils ? C'est la faute au climat ?
La montagne qui s'effrite, s'érode, s'écroule de manière parfois spectaculaire, ce n'est pas nouveau pour eux. Ils en sont souvent les premières victimes, mais ils sont formels. Les incidents naturels, graves ou moins graves, se multiplient dans leur région. Leur ressenti est que la montagne est toujours plus instable. Et les sources d'inquiétude, ça a grandi ces dernières années. Ces montagnards sont reconnaissants que l'on cherche à préserver l'accessibilité de leur vallée. Tous ces chantiers, petits ou impressionnants, comme celui que j'ai vu en Bas-Saint-Gadine, expriment la solidarité du pays avec nos populations des Alpes encore nombreuses. Et c'est d'ailleurs frappant, on est loin en Suisse de la désertification qui menace certaines régions alpines en Italie ou en France.
En fait, François, vous nous dites qu'on maîtrise la situation, c'est ça ? C'est donc faux de penser que nous sommes dépassés au fond par les effets du réchauffement ?
C'est peut-être plus compliqué. Le malaise, c'est qu'on intervient pour réparer ou pour prévenir un dégât importé s'il n'est pas trop tard. On est sur la défensive, on court derrière le mal, on s'épuise contre l'engrenage du réchauffement global et ses basses œuvres. Enfin, c'est ce que je me disais, penché sur mon guidon, dressé sur mes pédales. Peut-être payons-nous la facture de notre insouciance, peut-être subissons-nous les effets de notre échec collectif à ne pas avoir pris il y a 10 ans, 20 ans, des mesures sérieuses qui auraient pu freiner le réchauffement.
Mais alors, que doit-il se passer ? Vous convenez que c'est pas simple ?
Oui, bien sûr, c'est d'une grande complexité. Évidemment que les gouvernements, les parlements sont requis en première ligne pour prendre des mesures courageuses. Mais, cela dit, de ma chevauchée à vélo, avec juste une tonne de bivouac et un minimum de bagages, je tire une leçon positive. Ce voyage, éco-responsable, avec son bilan carbone du tonnerre, ce n'était que du bonheur. Rien à voir avec les sacrifices et les pertes de confort que des discours catastrophistes et culpabilisants associent à l'engagement individuel pour sauver le climat. Rouler à vélo, comme marcher d'ailleurs, c'est célébrer la lenteur dans un monde qui s'agite. C'est chercher l'imprévu au nez à la barbe du principe de précaution. C'est embrasser le local dans un monde drogué par l'illusion de la globalité. Ne compter que sur soi, c'est gagner de la liberté, de l'autonomie. Et d'ailleurs, c'est réjouissant, la littérature scientifique sur les comportements humains montre que les bénéfices à retirer de la « green attitude » sont supérieurs aux inconvénients. Les modes de vie respectueux de l'environnement procurent en général un mieux-être, une plus-value, une émotion positive, en liens sociaux, un plaisir partagé, une satisfaction personnelle. Il y a donc de bonnes raisons de se responsabiliser et c'est sûr, je repartirai en vacances à vélo ou à pied.
Réaction, Gérard Guerrier, à ce que vient de dire François Modou.
À 100% pour cet été, je suis parti en trek dans les Alpes, évidemment, juste à côté de la maison.
Gérard Guerrier, vous étiez avec nous pour votre livre « Éloge de la peur à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien ». On a une petite tradition comme ça dans Altitude, on finit toujours l'émission par la question à 100 francs. C'est quoi votre montagne ? Quelle est-elle ? Celle qui vous fait rêver, celle auprès de laquelle vous allez vous ressourcer ?
C'est celle qui est en face de chez moi, qui s'appelle Beldonne, qui n'est pas connue des Parisiens, et tant mieux.
Pas encore.
On y voit le loup. C'est un massif sauvage à quelques kilomètres de Grenoble. C'est la liberté, on parlait de la liberté, voilà, c'est ma montagne.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que vous vous êtes réconcilié avec vos peurs ? Et ce sera ma dernière question.
En tout cas, je suis plus à son écoute et je suis plus conscient de son rôle et de ce qu'elle peut m'apporter. Alors oui, je suis réconcilié avec mes peurs.
Gérard Guerrier était notre invité dans Altitude. Tout de suite, nous quittons Morges pour nous rendre à Lausanne sur la route.
Infotrafic RTS.
Avec le Magic Pass, votre abonnement de ski et montagne, magicpass.ch. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, on compte 3 km de bouchons entre Quinto et le portail sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, ce qui correspond à un retard de 3 quarts d'heure environ. Et concernant les services de ferroutage, une attente d'une demi-heure est annoncée à la gare de chargement de Goppenstein sur la ligne du Lötschberg. L'inforoute en continu, c'est aussi sur notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Gérard Guerrier était notre invité, éloge de la peur à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien. Ceux qui étaient à Morges, eh bien, ils peuvent encore le trouver. Il y a les stands là avec votre livre, Gérard. Je suis sûre qu'il sera même d'accord de griffonner une petite signature à l'intérieur. Un grand merci à Jérôme Nussbaum, à la technique, à la réalisation de cette émission. C'était Didier Rossa, à la programmation musicale Stéphanie Jovanovic, à la production Simon Matédoré, que vous retrouverez dimanche prochain pour une nouvelle émission d'Altitude. À nouveau en extérieur, on aime bien sortir. Cette fois, il sera en direct des montagnes neuchâteloises au lac d'Étanières pour le festival Alt plus 1000. Altitude, eh bien, c'est aussi des photos, des vidéos sur la page Facebook RTS, la première. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée à tous. Tout de suite, ce sera Forum sur la première.
L'heure avec freebank.ch, l'hypothèque en ligne de la Banque cantonale de Fribourg.
Il est 18h sur la première. Forum vous est présenté par Pietro Bugnon et Renaud Malik.